une émission proposée et animée par Christine Baron.
On s'était quitté en avril sur un petit brin de fantaisie et de légèreté, des qualités que cultivent avec bonheur les enfants si promptes à s'échapper du réel ou à le transformer grâce à leur imagination. Du coup, est-ce que c'est parce qu'on y a été plus sensible que d'habitude ? On a eu l'impression que la vie culturelle s'intéressait beaucoup aux enfants ce printemps. Évidemment, les mesures sanitaires les ont concernés au premier chef, puisque les écoles ont brusquement basculé en distanciel et que les dates des vacances bousculées pour tous ont obligé les familles à s'adapter à ce nouveau calendrier et à reposer la question, parfois d'arrière-plan, de la place des enfants dans la vie culturelle. Pas pour la quatrième de couverture, qu'il aimait souvent en avant dans ses émissions mensuelles ou hebdomadaires. L'été dernier, c'était Cosette, l'héroïne de Victor Hugo, éditée chez Belin Jeunesse et illustrée par l'étoile d'Olivier Desvaux, exposée au musée de Villequier. En novembre, des adolescents amoureux à Deauville, Théo et Salomé, ont illustré les images du festival photographique Planche Contact de Deauville. En décembre, l'hebdo avait rencontré Madame Joujou au pied du sapin, puis Edith, l'illustratrice de livres d'enfants à la bibliothèque Salacrou, Lola Lafont et Chloé, la jeune danseuse héroïne de son Chaviré au goût des autres, Alexandre Asselet et ses marionnettes au volcan junior, Caroline Legris, la graphothérapeute qui rééduque le geste d'écriture des jeunes écoliers. Bref, des émissions à retrouver en podcast sur le site de Radio Albatros. Mais pour la 19e édition de la 4e de couverture du mois de mai, on va faire encore mieux, un numéro spécial jeunesse. Avec un petit coup d'œil en arrière sur ce qu'on a aimé le mois dernier, avec une lecture faite par un jeune champion de la lecture, avec la rencontre d'un membre du jury d'un concours d'écriture jeunesse et quelques promesses pour le mois à venir. Alors vite, découvrons cette 4e de couverture du mois de mai. Le mois dernier, Delphine de Vigan a donné le ton en publiant son nouveau roman « Les enfants sont rois ». Place aux enfants donc ? Évidemment non, le titre est très ironique, puisqu'il s'agit de dénoncer les mises en scène abusives que certains parents imposent à leurs enfants pour valoriser leur propre image de mère ou de père fabuleux, des enfants utilisés sans vergogne, hélas. En revanche, d'autres enfants ont été couronnés, eux. Ce sont les héros de papier de l'écrivain Jean-Claude Mourleva. L'auteur de L'Enfant Océan a reçu le prix Alma, aussi prestigieux qu'un prix Nobel, pour son œuvre la plus importante récompense internationale pour la littérature jeunesse. Ses récits abolissent le temps et l'espace et évoquent dans une prose onirique et efficace des questions éternelles comme le désir et l'amour, la vulnérabilité et la guerre. Ça, c'est le jury du prix Alma qui écrit. Ce jury créé en mémoire de la grande romancière pour enfants, Astrid Lindgren, créatrice, entre autres, de Fifi Brin d'Acier. C'est une vraie consécration pour Jean-Claude Mourleva, le seul Français à ce jour à avoir été distingué par le jury suédois. Un autre jury plus local, celui-là, a voulu mettre en avant de jeunes talents sur son écran, cette fois. C'était du 9 au 11 avril, un petit festival de courts-métrages mis en ligne par l'équipe du Grain à Démoudre, qui organise chaque année à Gonfreville-l'Orcher un festival de cinéma. Un festival piloté par de jeunes cinéphiles de 12 à 25 ans. Intitulé « Very Short Trip », ce florilège de courts-métrages avait choisi l'humour comme thème en piochant dans ses archives. De « La révolution des crabes » en 2007, où les pauvres crustacés sont obligés de marcher tout droit, au sosie de Jim Morrison dans « People are Strange » en 2014, les situations les plus loufoques ont apporté un brin de fantaisie dans le confinement. Et un défi à relever puisqu'ils ont aussi lancé un concours de films pour des lycéens cinéastes ouvert jusqu'au 31 juillet à découvrir sur le site du Grain à Démoudre pour en savoir plus et envoyer ses bobines à temps. Après les jeunes qui préparent des surprises pour d'autres jeunes, Voilà une grande radio nationale qui a inauguré le mois dernier une série de podcasts pour les 5-7 ans. Avec ses bestioles, ça c'est le titre, France Inter, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, a concocté les 6 premiers épisodes de cette série enlevée qui devrait ravir les enfants et les parents. Un merle, un oursin, un lombric, un hérisson, de quoi passer un bon moment. Un autre événement a réjoui les enfants. Le mois dernier, c'est la déambulation dans les rues de Fécamp d'un drôle de bonhomme, une marionnette à taille humaine, animée par la compagnie La Magouille, qui est allée à la rencontre des curieux, puisque le spectacle vivant est à l'arrêt. Le théâtre Le Passage a libéré M. Gaston dans les rues, et le vieux monsieur a quitté la scène pour rencontrer son public dans les rues de Fécamp. Sur Arte, c'est le public qui est entré dans les coulisses de l'Opéra de Paris pour découvrir le dur chemin qui mène les petits rats au prestigieux corps de ballet. C'était L'école des rêves, un superbe documentaire au titre évocateur où des enfants passionnés, courageux, débordants d'énergie et si heureux de danser. Un documentaire toujours visible en replay sur la 5 parce que on ne se lasse pas de voir des enfants heureux, surtout quand ils chantent avec entrain le célèbre « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux » de Ray Ventura. Deux enfants heureux en avril malgré le drame qui les entoure nous ont bouleversés une fois de plus. Ce sont les deux héros de « Jeux interdits », le film de René Clément sur l'Exode 1940, tourné en 52. Brigitte Fosset et Georges Poujouly, âgés de 5 et 11 ans au moment du tournage. Et 70 ans après, l'émotion reste intacte, bien que la musique du film ait été malmenée par des générations de guitaristes maladroits qui ont écorché les oreilles de bien des familles. Pauvre Narciso Yepes. Mais c'est un film qui a été justement récompensé par une avalanche de prix. Lion d'or à Venise, Oscar à Hollywood et prix d'interprétation féminine pour Brigitte Fossé, qui était alors âgée de 5 ans. Des prix, toujours des prix pour couronner des enfants talentueux. Enfin, plus près de nous, en avril, d'autres enfants ont été distingués. Aux quatre coins de la France, des élèves de CM2 ont tenté l'aventure de la lecture à voix haute et sur les 1750 candidats, 149 ont été retenus en avril pour présenter leur région. Les finalistes seront connus en juin. Et qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les petits champions de la lecture. Alors on a eu envie de les écouter. Eh bien, c'est le moment d'ouvrir notre parenthèse littéraire. En attendant la dernière sélection, est-ce que nos deux classes de Seine-Maritime feront partie des 14 finalistes en mai ? On a écouté avec plaisir Louise, finaliste de la région PACA l'an dernier.
Je m'appelle Louise, je représente la région PACA et je suis à l'école Notre-Dame de France à Marseille. J'aime jouer de la flûte, faire des randonnées à la montagne et lire des romans d'aventure. Je vais vous lire un extrait de Alexandre l'Intrépide Dumas de Bertrand Puard aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je vais vous lire la rencontre de deux adolescents avec leur ravisseur. En effet, quelques heures plus tôt, ils se sont fait brusquement enlever dans les rues parisiennes. L'homme était grand, vêtu d'un costume bordeaux trois pièces cintré qui témoignait de sa richesse. Il portait une épée à la taille. Son visage était très blanc, comme poudré. Ses traits étaient d'une grande finesse si l'on omettait la légère boursouflure qui apparaissait près de son œil droit. Il vint à leur rencontre lorsque Alexandre et Aglaé terminèrent leur ascension du long escalier en colimaçon. Il adressa un salut de la main au jeune garçon et s'agenouilla devant Aglaé en lui prenant la main. Diverses émotions passèrent dans son regard lorsqu'il se trouva face à la mousquetaire. Mais il se reprit aussitôt pour retrouver son flegme premier. Je vous prie d'excuser la façon quelque peu cavalière que j'ai eue de vous inviter en ma demeure parisienne. Il parlait un français parfait, avec, néanmoins, un fort accent venu d'outre-Manche. Cavalière, le mot sonne juste, grinça Alexandre. J'ai eu peur que vous n'acceptiez pas mon invitation si je vous la faisais délivrer de vive voix. Qui êtes-vous ? Demanda Aglaé à son tour. Et que nous voulez-vous ? L'anglais fit un tour sur lui-même avant de se laisser tomber sur un large canapé où il invita les deux adolescents à le rejoindre. Mais ils refusèrent. Je ne m'assois qu'en compagnie de mes amis, déclara l'apprenti écrivain. Je me présente. Je suis Lord Wilmore et je souhaite précisément devenir un de vos amis, mes enfants. Je détiens une information qui vous ravira et je suis prêt à vous la délivrer sur le champ en échange d'un menu service. Les deux mousquetaires restèrent muets, mais ils écoutaient attentivement. Ce silence, c'était pour le faire continuer, cet excentrique personnage. Je sais où se trouve votre ami Boudou. Alexandre se retint pour ne pas sauter de joie, puisque c'est précisément moi qu'il est enlevé à Villette-Cotterêts au début de ce mois. Vous avez enlevé Boudou ? Cria Alexandre. Mais pourquoi ? Qui êtes-vous donc ? Et où se trouve-t-il ? Le sourire de Lord Wilmore s'accentua. Je vais répondre à vos questions dans l'ordre, my boy. Il polissait la garde de son épée tout en parlant.
Merci Louise et bravo. Et avec Camille, on a envie d'encourager les petits champions pour 2021. Allez les enfants.
Allez, 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 allons à chaque coup de sabre. Prends l'écorce des canailles, prends l'écorce des canailles. Allez, allez, allons à chaque coup de cloche. Prends la crasse, le cri des mioches, prends la crasse, le cri des mioches et des carillons.
Merci Camille d'entraîner avec tant de fougue les enfants vers la victoire. Allez, allez, chante-t-elle avec eux pour leur donner du courage. Allez Moussaillon, prends la force et fastoche. Ça, c'était il y a 10 ans. Mais en avril 21, elle vient de participer à Djourou, l'album de Balaké Sissoko, où elle chante avec le maître incontesté de la kora, cette envoûtante harpe du Mali. Et merci à l'association des petits champions de la lecture d'avoir créé en 2012 ce jeu non compétitif qui ne cherche qu'une chose, développer le goût de la lecture chez les enfants qui lisent pour les autres, pour le plaisir. Un plaisir partagé par tous les membres de l'association puisqu'ils sont tous représentants de la chaîne du livre, des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, sous la présidence d'Antoine Gallimard. Et pour la 4e de couverture de mai, on a eu la chance de rencontrer une éditrice, auteure de livres pour enfants, jury cette année du concours de nouvelles organisé par Normandie Livres et Lectures, dans la catégorie 15 ans. Alors, on lui a demandé de nous parler de son expérience de jury littéraire, sa 4e de couverture en quelque sorte. Bonjour Caroline, vous êtes le jury de ce concours de nouvelles sur l'éducation sentimentale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre du concours et puis nous dire aussi ce que c'est que d'être jury auprès de 6 jeunes écrivains ?
Oui, alors le concours a été organisé par Normandie Livre et Lecture dans le cadre du bicentenaire de Flaubert. Et donc, il a été proposé un concours de nouvelles sur le thème de l'éducation sentimentale. Et les candidats étaient invités à écrire une nouvelle qui devait forcément se terminer par la citation du roman de Flaubert. Donc, ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Absolument magnifique.
Oui, très beau.
Donc j'ai été particulièrement sensible, c'est vrai, au choix en plus de l'extrait, de la contrainte aussi d'écriture oui. que cela imposait. Donc moi, je fais partie du jury pour les 15 ans, puisqu'il y avait deux catégories en fait, hein, les adultes et les jeunes. Donc, je suis très fière d'être chez les jeunes. Hein. C'est un peu mon anti-ride à moi, donc j'en suis ravie. Et donc, j'ai effectivement reçu des manuscrits sélectionnés et on aura donc une sélection à faire et un finaliste à désigner.
Donc, beaucoup de manuscrits et la date alors de la révélation du jury. Les manuscrits ?
Oui, on a reçu beaucoup de manuscrits. C'est même très encourageant pour des jeunes de se lancer ce défi de l'écriture. Et donc, le prix sera révélé le 11 mai. Et voilà, il y a un petit quelque chose quand même à gagner, mais il y a aussi surtout
une
grande reconnaissance parce que sincèrement, il y a de très belles choses décrites.
Et on disait, vous avez reçu beaucoup de manuscrits de cette tranche d'âge.
Oui, alors il y en a eu quand même plusieurs dizaines.
Ah,
on
oui,
a
d'accord.
fait, voilà, Normandie Livre et Lecture a fait une présélection dans ce qu'ils ont reçu. Et donc, ils nous ont envoyé cette présélection. Et donc, vérifier que si déjà techniquement, hein, il y avait bien la citation finale, si au niveau du nombre de signes, c'était bien conforme, parce qu'il y avait quand même des contraintes.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Le métier d'auteur, quand on est édité hein, aussi un jour, vous êtes aussi face à des contraintes techniques que va vous imposer l'éditeur. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce travail-là. Et ce n'est pas uniquement que la création, voilà, où on fait tout et n'importe quoi. Donc, c'était très intéressant et franchement très enrichissant. Et Flaubert n'a pas à rougir du travail, des manuscrits qu'on a reçus.
Et vous avez trouvé une grande variété d'inspiration dans pas que des histoires d'amour, j'imagine, quand même.
Alors, le fond reste quand même effectivement l'histoire d'amour, mais alors vraiment traité de façon très surprenante. Et je trouvais qu'il y avait une maturité chez les jeunes, en fait, hein, par rapport au thème de l'amour qui était quand même impressionnante. Ils n'en sont plus au stade de l'éducation sentimentale, ces jeunes. Non, ça a été traité sur des fonds parfois historiques. La chute du mur de Berlin, par exemple. Ça a été aussi traité sous le thème de la santé, avec la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, on a vraiment eu l'écriture, de belles écritures, mais aussi de l'originalité dans la façon d'aborder, où les jeunes se sont complètement séparés du texte de Flaubert, du texte de départ.
Oui, oui.
On n'est pas dans une réécriture de l'éducation
ça a
sentimentale.
Libéré l'imaginaire des jeunes.
Complètement.
Hein,
et c'est très surprenant, mais alors du coup, très intéressant. Ils arrivent à piquer notre curiosité comme ça en choisissant ces angles d'entrée très pertinents.
Donc ça fait très envie parce qu'on a l'impression que vous avez quasiment exploré la sensibilité d'une jeune génération et ça c'est quand même pas très courant. Hein. C'est grâce à l'écriture qu'on a pu révéler leurs émotions. Enfin.
Oui, tout à fait. Hein. On sent qu'ils sont à fleur de peau dans ce qu'ils écrivent. De toute façon, moi j'ai toujours affirmer que l'écriture comme l'illustration sont des parts de soi qu'on livre hein, à travers les ouvrages. Et là, vraiment, on le ressent.
Et des plumes, vous avez trouvé qu'il y avait des belles plumes, si on peut dire plumes entre guillemets, évidemment.
Oui, ouais, oui franchement, j'ai été... Il y a trois nouvelles hein, pour l'instant dans ce que j'ai lu qui m'ont vraiment scotché parce que je trouvais que c'était très, très bien écrit.
Donc c'est très prometteur, très encourageant. Merci Caroline.
Merci.
Et puis merci tous ces jeunes qui se sont lancés dans l'aventure.
Caroline Trioro, l'éditrice de La Marmite à mots, vous étant dans le podcast de l'hebdo de la semaine 17 si vous voulez découvrir son univers jeunesse. et on saura donc dans quelques jours qui a remporté le concours jeunesse de l'éducation sentimentale. Et quoi d'autre en mai ? Qu'est-ce qui nous attend ? Le printemps, des fleurs ? Un matin de mai fleuri peut-être ?
Ulysse, donne-nous le la.
Parmi les deux ailes d'or dans ses voiles, le soleil est encore endormi. Et les fleurs entr'ouvrent leur corolle, le matin de mai fleuri. Le narcisse est beau rivé, se délasse, la violette a moins de modestie. Le police et sa voisine s'embrassent, le matin mille pattes aventureux et la blanche pâquerette, reine papillon, sérieux. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis.
Ce matin de mai fleuri était bien sûr extrait de Alice au Pays des Merveilles, l'adaptation que Walt Disney avait faite en 1951 du célèbre roman de Lewis Carroll qui n'a cessé d'inspirer des créateurs au cinéma, Tim Burton en 2010, ou au théâtre avec le Lewis versus Alice de Macha Makeyev, présenté en 2019 au Festival d'Avignon. Eh bien justement, le Festival d'Avignon, cette année, maintenu, aménagé, reporté, que va nous réserver ce mois de mai ? Les dernières annonces gouvernementales nous redonnent de l'espoir enfin. Si tout va bien, on pourra donc dès le 19 mai retrouver les lieux culturels qui nous ont tant manqué, les musées, les cinémas, le théâtre, des ouvertures évidemment toujours soumises aux bonnes courbes des hôpitaux. Les franciscaines à Deauville annoncent leur inauguration en comité restreint bien sûr le mercredi 12 mai et une ouverture partielle dès le 13 mai, dans les règles sanitaires de rigueur, aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, pas vraiment. Se laver les mains, porter des masques, sans doute, mais aérer, se retrouver à plusieurs, mais dehors, en plein air, c'est une recommandation qui vient de sortir ? Eh bien, pas du tout. Et pour en savoir plus, en mai, on lira avec plaisir le dernier ouvrage d'Alain Corbin, le grand historien des émotions, des sens et du sensible. Après la fraîcheur de l'herbe, la douceur de l'ombre, l'histoire du silence ou celle des cloches de la terre sur le paysage sonore de nos campagnes, il vient de publier « La rafale et le zéphyr », une histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent. Alain Corbin nous fait découvrir que l'air est à la mode à la fin du XVIIIe siècle. D'abord l'air qui purifie. On prône la ventilation qui désodorise et chasse les miasmes. Le vent se situe alors au centre de l'hygiène publique. Que l'air circule à grand renfort d'éventails, d'arbres près des marais nauséabonds, de cloches qui ébranlent l'atmosphère. L'architecture s'adapte, les rues, les places doivent être vastes pour favoriser la circulation du vent. Bol d'air obligatoire, précepte qui est revenu à la mode cette année. L'air est à la mode aussi à cette époque avec les aventuriers du ciel qui fascinent les foules. Le rêve d'Icare enfin réalisé grâce au ballon. Le voyage aérien permet aux nouveaux explorateurs de contempler enfin la Terre vue du ciel et de changer de ce fait leur point de vue sur le monde. Portés par les vents, sans repères, sans bruit, c'est comme s'ils naviguaient sur une mer aérienne, dans une fuite olfactive loin des puanteurs des bas-fonds. Alain Corbin insiste sur l'ivresse ressentie par les nouveaux aventuriers à la merci des vents, des pionniers qui semblent avoir découvert une sorte de paradis. Et guide aux passants, habitués à la navigation à voile, embarquera en 1887 sur un ballon qu'il qualifiera d'énorme joujou libre et docile. Il décrira ainsi son expédition aérienne. Nous allons, délicieusement inertes, à travers l'espace, l'air qui nous porte fait de nous des êtres qui lui ressemblent, des êtres muets, joyeux et fous. On peut lire la suite dans son livre « En l'air et autres chroniques d'altitude » aux éditions du Sonneur, préfacé en 2019 par Sylvain Tesson. Voilà qui nous rappelle les deux héros des aérostats d'Amélie Nothon qu'on avait découvert en avril. Des êtres joyeux et fous, eux aussi. Alors, en mai, laissez-vous griser par la rafale et le zéphyr d'Alain Corbin, parce que le doux zéphyr, c'est le vent du printemps, la délicieuse brise de mai, le vent des amants. Et quoi d'autre en mai ? On aura peut-être envie de relire le formidable « 5 semaines en ballon » de Jules Verne, si souvent proposé justement aux jeunes lecteurs. Un fabuleux voyage toujours aussi palpitant. Ou relire, évidemment, le roman de Lewis Carroll, le nom de plume de Charles Ludwig Dodgson, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, pour retrouver cet enfant qui tombe dans un terrier, comme s'il était un ballon qui descendrait sur terre, sauf que elle atterrit dans un endroit mystérieux, après une chute interminable, et qu'en petite fille gourmande, elle croquera un gâteau bizarre qui la transformera en géante et on connaît la suite. Un enfant gourmand, on en a trouvé un autre qui a écrit une superbe chanson d'amour à sa petite fille en 1985. Le chanteur, c'est Renaud. Et la chanson, c'est aussi une ode à tous les bons becs qui niquaient les dents des enfants dans les années 50. Coco Boer, Caramel à 1 franc et évidemment Mistral gagnant.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Piqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagneront. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coco-boères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.
Et voilà, après avoir tant parlé du vent et des enfants, on ne pouvait pas rater ces Mistral gagnants. Parce que ces bonbons portaient le nom d'un vent connu pour ses violentes rafales, parce que c'était aussi le nom d'un train rapide inauguré en 1950, le Paris-Nice. Alors quoi de mieux pour annoncer ce joli mois de mai, où nous devrions être libres comme l'air ? Vivement le 19, vivement le retour dans la vie qu'on aime, les terrasses, les cinémas, les spectacles, les musées. Patience. Et merci Louise, merci Caroline, merci Joanne. Rendez-vous le 31 mai sur un quai de gare peut-être en attendant le départ du Mistral. Non, pour la 4e de couverture de juin sur Radio Albatros.
C'était la 4e de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.